Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonsoir à tous, il est 14h ici à Washington, 19h en temps universel. On commence ce bulletin par le Sénégal où des millions de personnes se sont mobilisées depuis 8h du matin pour se rendre aux jeunes à l'occasion de la présidentielle. Une présidentielle qui oppose le président sortant Macky Sall à 4 autres adversaires. Macky Sall, 56 ans, espère ainsi accéder au second mandat pour terminer ce qu'il appelle son plan Sénégal émergent. Et en face, il a ses concurrents, des rescapés du nouveau système de parrainage et des décisions judiciaires qui ont éliminé des rivaux de poids. Ces rivaux donc qui espèrent bien contrarier ses ambitions, les ambitions de Macky Sall, à commencer par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, âgé de 59 ans et député antisiste, et le député antisystème et ex-inspecteur des impôts Ousmane Sonko, qui ont tous deux prophétisé la chute de Macky Sall dès ce soir. Au Nigeria, le décompte des voix entre les deux favoris de la présidentielle de samedi, le chef de l'État sortant Muhammadu Buhari et l'opposant Atiku Abubakar, se poursuivent ce dimanche sans qu'aucun résultat officiel ne soit annoncé, même si les deux camps se proclament déjà vainqueurs d'un scrutin généralement calme. Les données recueillies par dans les quelques 120 000 bureaux de vote des 36 États devaient être lentement centralisées vers la capitale Abuja, où le président de la commission électorale, Mahmoud Yakubu, devrait annoncer les résultats dans quelques jours. En RDC, Antoine Gizenga, compagnon du premier ministre, du premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrice Lumumba. Antoine Gizenga, ex-premier ministre nommé par l'ancien président Joseph Kabila, est décédé ce dimanche à l'âge de 93 ans à Kinshasa. La 19e édition du marché international du cinéma et de la télévision africain, le MICA, a donc un rendez-vous entre producteurs, distributeurs, diffuseurs et porteurs de projets. S'est ouvert donc ce marché à Ouagadougou à l'occasion du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui fête son cinquantenaire. Au moins 2 militaires et 1 civil malien ont été blessés dimanche dans une attaque suicide impliquant des véhicules contre un camp militaire où sont stationnés des instructeurs européens aux environs de Bamako. 3 assaillants ont péri dans cette attaque visant le camp de Koulikoro à 57 km au nord-est de la capitale malienne qui abrite une base militaire malienne, la mission européenne de formation de l'armée malienne et les écoles maliennes de formation des sous-officiers et des officiers. L'ancien président du Ghana, John Mahama, sera le candidat du principal parti d'opposition à la présidentielle de 2020, ayant remporté une victoire écrasante aux primaires du Congrès national démocratique. C'est ce qu'on a appris dimanche auprès des responsables du dit parti. M. Mahama l'a emporté samedi sur 6 autres candidats à la candidature par 95% des suffrages. John Mahama Dramani avait été élu président du Ghana en 2012, mais avait été battu en 2016 par Nana Akufo-Addo du nouveau parti patriotique sur fond d'accusations de corruption et d'une économie défaillante.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, absent de son pays depuis 4 mois après un AVC, actuellement en convalescence au Maroc, est parti. Il est parti donc du Maroc ce dimanche vers le Gabon, mais pourrait y revenir plus tard, a indiqué son entourage à l'AFP. Plusieurs centaines de personnes ont protesté aujourd'hui dans le centre d'Alger à l'appel d'un mouvement citoyen pour s'opposer à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika qui a donc ses manifestations contre Abdelaziz Bouteflika malgré un important dispositif policier. Et puis enfin, la première ministre britannique Theresa May promet la tenue d'ici au 12 mars d'un vote des députés britanniques sur l'accord de Brexit qu'elle tente de renégocier avec Bruxelles. C'est ce qu'ont rapporté les médias britanniques. Merci de nous avoir suivis. Le prochain bulletin, c'est dans moins d'une heure. Et l'info est en continu sur voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Eric Manilakiza avec vous, bienvenue dans ce dialogue des religions. Nous parlons ce soir de la gestion de la crise des abus sexuels au sein de l'Église catholique. Le pape François a défroqué l'ex-cardinal américain Theodore McCarrick, jadis très influent. Il a 88 ans, il est accusé d'abus sexuels il y a près d'un siècle. Cette semaine, le souverain pontife réunit au Vatican la hiérarchie épiscopale de la planète devant ses responsabilités face au scandale d'agression sexuelle de mineurs. Que pensez-vous de la gestion de cette crise? Il faut aussi savoir que le même phénomène frappe l'église baptiste américaine, qui est aussi confrontée à des abus sexuels et de viols. Une enquête révèle plus de 20 ans de ce paradis de pédophilie. Le président de la Convention baptiste du Sud propose d'excommunier. Quel est votre commentaire? C'est le moment d'en parler. Je suis déjà en ligne avec Hassan Omar Boulalé. Hassan, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Vous êtes un fidèle auditeur de Dialogue des Religions. Voilà, vous avez suivi, il y a eu un début de sanctions, n'est-ce pas, sur ces abus sexuels qui frappent oui. L'Église catholique.
Effectivement, nous avons eu cette sanction qui est historique d'abord parce que souvent on est en train de mettre quelque chose qui est toujours visible et qui était toujours aussi visible, mais souvent voilà, les accusateurs ou ceux qui sont souvent accusés de ces faits-là ne sont pas souvent condamnés. Donc c'est un premier geste et il faut le féliciter, mais il faut continuer d'avant et trouver des solutions qui peuvent durer dans le temps, parce que seulement sanctionner quelqu'un pour ces faits-là n'apportera pas grand-chose. Mais il faut trouver des solutions qui sont positives et qui peuvent durer dans le temps et qui peuvent redorer le blason et l'honneur de l'Église.
Comme quoi, par exemple,
il faut faciliter les mariages, faciliter les mariages aux hommes religieux de l'Église. C'est un point important parce que dans l'humain, on ne peut pas rester comme ça. Et voilà,
Hassan, oui. On voit que l'église baptiste américaine est aussi confrontée à ce problème d'abus sexuels et ce sont des protestants qui sont autorisés à se marier. Donc ce n'est pas le mariage qui va régler ce problème au niveau de l'église catholique.
Oui, ça peut venir individuellement quelqu'un qui est déjà, si on peut utiliser le terme berbère, ou voilà, qui a des vices, mais... Et peut-être certains dans l'Église catholique, s'ils trouvent le moyen de se marier, peut-être ils vont renoncer à ces fléaux. C'est un crime, il faut le dire, c'est un crime. Donc, essayons d'utiliser cette solution. Et si cette solution marche, peut-être il y aura une réduction de ces fléaux qui touchent l'Église. Et il faut continuer parce que nous avons des gens qui se plaignent de leur enfance, qui ont subi ces mots-là et qui n'a pas de sens et qui n'a pas de mots à l'exprimer. Et marchons dans ce sens-là parce que d'abord, un homme religieux doit être lui-même quelqu'un de saint, voilà, quelqu'un qui est irréprochable dans ses comportements-là. Et si vous prenez l'Église, et voilà, la religion, vous prenez l'harmonie, la gentillesse, la fraternité, et dans vos actes, on voit quelque chose qui est différent. Donc c'est quelque chose qui est contraire, et ça vous contrarie. Donc trouvez des solutions, le mariage, peut-être des punitions, des condamnations, et la justice aussi. La justice, l'État doit intervenir dans ce sens-là, parce que souvent on ne condamne pas. C'est l'Église qui condamne, mais il n'y a pas de gens qui sont condamnés en prison, donc à des lourdes peines. Donc tout ça, c'est peut-être des solutions. Il faut demander l'État et la justice doit et aussi l'Église doit demander pardon à ces gens-là qui ont subi dans leur enfance des problèmes dus à la sexualité ou voilà à la perfection.
Merci Hassan. Voilà. Merci Hassan pour votre contribution. Nous avons à Kinshasa Alphonse Mbouaki. Alphonse.
Bonsoir Eric Marie-Mikiza.
Bonsoir.
Moi je trouve que les gens parlent beaucoup sur les vœux de célibat. Je crois que c'est cela qui incite tous ces prêtres religieux à se lancer dans des abus sexuels. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Hein. Alors, la meilleure solution, c'est l'excommunication. Et puis, non seulement on s'arrête à l'excommunication, mais également, il faut traduire ces gens-là dans la justice afin qu'ils soient condamnés, qu'ils subissent des pénalités. Et aussi, réparer les torts des familles dont les enfants, dont les mineurs ont été abusés. Donc, je trouve que il faut des lois fortes, dans les églises et puis au niveau laïque, au niveau de l'État, pour sanctionner toutes ces abus, la pédophilie, tous ces scandales sexuels, marie-nutrice. Ce n'est pas question de se marier. On peut se marier, comme vous venez de le dire là, dans les cas des églises baptistes, ils sont mariés. Ils tombent dans les mêmes habits. Donc, je pense que le mariage, ce n'est pas une panacée pour se dédouaner de ces habits sexuels. Il faut des sanctions graves, il faut des punitions, il faut excommunier, il faut traduire en justice, Marie-Nicolas. Voilà ce que moi j'avais à donner comme contribution au dialogue de ce soir.
Merci Alphonse pour votre contribution. Nous avons le commentaire de Conan, Félix Conan, il dit « Les prêtres, évêques et autres responsables de l'Église catholique ont renié ce qui fait la quintessence de la vie. L'homme avec majuscule a des désirs biologiques primaires dont la sexualité, c'est ce qu'il raconte. Quiconque s'en prive commettra à coup sûr des actes ignobles et contre nature. » Nous avons Baudelaire Hachou en ligne. Baudelaire.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes au Bénin, n'est-ce pas?
Oui, je suis au Bénin.
Je vous écoute, Baudelaire.
Ok, d'accord. Moi, je pense quand même que la crise que l'Église catholique est en train de connaître ces derniers temps, c'est un crise beaucoup plus que je sais d'abord parler quand même d'ordre éthique. C'est un crise beaucoup plus d'ordre éthique dans ce moment, en ce sens. L'Église, quand même, s'est retrouvée quand même à des situations où elle se montre très, 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 très partielle face à certains faits. En tout cas, nous prenons le problème de pédophilie. Normalement, en temps normal, il faudrait quand même que ceux-là qui sont coupables de ce genre de faits, qu'on les sanctionne. Et à travers les sanctions, d'autres quand même prendront le pas, d'autres quand même prendront les gens quand même de ces sanctions-là pour savoir se corriger. Mais quand l'Église ne prend pas ses mesures, l'Église laisse tout comme ça, les gens pour des actes, on est même là pour les couvrir, et puis on ne dénonce rien. C'est normal quand même que ça prenne d'ampleur. Vous voyez? Et l'autre chose aussi que je vais aborder aussi, c'est que je veux beaucoup vous parler quand même des lois des textes fondamentaux de l'Église. Je pense quand même qu'il est temps quand même que les dignités de l'Église, ou bien les hauts gradés de l'Église, les autorités de l'Église, quand même puissent revoir comment est-ce qu'il faudrait faire. S'il faut faire une révision des textes, il faudrait réellement les faire. Parce qu'avec l'évolution de l'humanité, il est temps quand même que les choses changent. Je pense quand même que aussi les problèmes se retrouvent vraiment à ce niveau-là. Et il doit vraiment bien passer, bien réfléchir pour voir corriger. Sinon, quand ça va vraiment dégénérer, ça fera vraiment.
Mais Baudelaire, Baudelaire.
Oui.
On ne force jamais à quelqu'un de se consacrer au sacerdoce. C'est un appel, comme
oui.
On dit.
Oui, c'est vrai, je pense. Oui, c'est vrai que c'est un choix libre. C'est un choix libre. Vous savez, face à ce choix-là aussi, vous savez, l'homme est un homme d'intérêt et de désir. Et dans ce sens-là, il faudrait quand même qu'il y ait des mesures qui soient vraiment prises pour le contraire, fait ce qui est normal. Je pense que réellement que c'est un choix délivré, mais là aussi, il faudrait quand même que des milliers accompagnent.
Baudelaire.
Ça ne va pas marcher.
Baudelaire.
Oui, allô.
Est-ce que le problème ne se trouverait pas plutôt ailleurs? Parce qu'on voit qu'au niveau de l'Église baptiste ici aux États-Unis, c'est le même problème.
Oui, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un problème d'ordre éthique. Vous savez, c'est un problème vraiment d'ordre éthique et moral. Et je pense quand même que. base du problème. Et si je pense quand même que si tu peux vraiment attaquer cette partie-là par rapport à l'éthique, je pense que ça peut marcher. Parce que les gens, aujourd'hui, je le dis, moi, je le dis tout le temps que l'Église est devenue maintenant, une secte vraiment assez hypocrite. On voit des choses qu'on ne veut pas dénoncer. On dit non, c'est ça, c'est une vérité de couvent, il ne faudrait pas dévoiler ça. Mais quand on évolue comme ça, c'est normal quand même que les choses, quand même, dégénèrent.
Merci à Baudelaire pour votre contribution. Nous lisons toujours le commentaire de Conan Félix. Conan, il dit « L'Église catholique doit retourner à l'orthodoxie et à la genèse de la vie religieuse. En aimant, ils doivent permettre à leurs prêtres de se marier. C'est ainsi que tous leurs serviteurs seront des hommes équilibrés, selon lui. Aïcha, qui est pacifique, il dit « Ils doivent se marier » pour mettre fin à ce phénomène, car eux aussi, ils ont un corps humain. Comme Paul l'avait dit, si tu trouves que rester célibataire peut te faire manquer le royaume du ciel, il faut se marier. C'est l'avis de Pacifique. Nous avons en ligne Marie-Jeanne Abega. Marie-Jeanne, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà.
Bonsoir à vous.
Je vous écoute, Marie-Jeanne.
Moi, je voudrais dire que l'Église catholique entretient une sorte d'hypocrisie. Parce que lorsque les jeunes gens s'engagent dans le sacerdoce, à l'Église catholique, ils s'engagent parfois par imitation, parce qu'ils ne savent pas quelles sont les réalités qu'ils vont vivre. Lorsqu'ils prennent donc goût à la vie, ils ont des besoins physiologiques. Ils sont des hommes et, à ma connaissance, il me semble qu'on ne devient pas prêtre si on n'est pas viril. Et lorsque quelqu'un est viril, cela entretient, entraîne certains désirs. Donc, lorsqu'il ne peut pas satisfaire ses désirs,
ça, ce n'est pas vérifié.
Normal.
Ça, ce n'est pas vérifié, oui. Mais malheureusement, on n'a pas quelqu'un tout de suite pour nous éclairer. Mais vous continuez.
Oui, donc, lorsqu'il s'avère qu'ils ont grandi, ils ont des besoins physiologiques, ils se jettent sur une proie qui est disponible au-devant d'eux. Parce que la société est évolutive. Autrefois, les gens ne dévoilaient pas parce que nous, on a des témoignages de ceux qui ont été avec des prêtres, ils étaient des enfants, des servants, des messes et autres, qui avaient été violés il y a bien longtemps. Mais c'est quand ils deviennent vieux qu'ils dévoilent qu'ils avaient eu ce cas. Ça veut dire que autrefois, ils avaient peur de parler, mais aujourd'hui, la société est évolutive et les enfants parlent.
Mais Marie-Jeanne,
c'est pour ça que l'Église est exposée. L'Église doit revoir sa manière de fonctionner. Permettre à ses prêtres de se marier.
Marie-Jeanne, mais
oui.
On n'est pas tenu d'y rester éternellement.
Non,
il y a beaucoup d'exemples.
Ils ont accepté et ils vivent déjà dans un certain environnement. Ils ont certainement pris plaisir à étant enfants. Et eux aussi pensent qu'il faut pérenniser la pratique. Parce que je pense que cette pratique-là se transmet de génération en génération au sein de cette église. Parce que les gens ont longtemps gardé le mutisme. Ils ont grandi dans ça. Ils ont été victimes et eux aussi, ils font d'autres personnes des victimes. C'est pour cela que moi, je dis, ils doivent se marier au lieu d'entretenir l'hypocrisie. Que le pape, au lieu de sanctionner, au lieu que la société appelle aux sanctions, on devrait plutôt officialiser le mariage au sein de l'Église. Parce que ces prêtres,
Marie-Jeanne,
malgré le fait qu'ils ne sont pas mariés officiellement, ils ont des femmes et des enfants.
Marie-Jeanne,
oui.
Restez en ligne, je reviendrai vers toi. Nous avons quelqu'un au Sénégal. Allô?
Bonsoir.
Bonsoir, Soumaïla.
Oui, je suis là, je suis à l'écoute. En fait, je suis attentivement à l'écoute de l'émission.
Vous avez la parole.
Voilà, mais concernant ce problème, je dirais que c'est la faute est à l'Église catholique aussi. Maintenant, aux États-Unis, ce qui est là-bas, ça ressemble un peu au problème qui est à l'Église catholique.
Mais la responsabilité est d'abord individuelle, n'est-ce pas?
Oui. Bon, en fait, pour l'Église catholique, vous savez, Paul a déclaré comme quoi, pour éviter d'être brûlé demain, mieux vaut se marier que d'être brûlé demain.
Mais se marier, c'est un choix, non?
Il a averti.
C'est,
il a
se marier,
averti l'homme qui sert Dieu.
Se marier, c'est un choix.
Rien qu'à la consécration, ça dit ne pas se marier. Donc, il dit mieux vaut, si tu sais que tu seras tenté, et que tu ne peux pas résister à cette tentation, mieux vaut te marier que d'être brûlé demain à cause de ce péché que tu vas en commettre. Donc maintenant, ça c'est l'Église catholique. Maintenant, concernant l'Église baptiste aux États-Unis, c'est que la maman, c'est pas la sœur ou la maman est en train de témoigner. C'est un peu cela aussi. Donc, c'est des jeunes qui ne sont pas encore mariés des fois et qui se consacrent à l'Église qui est pour défendre la parole de Dieu. Mais et qui sont en train de suivre.
Les pasteurs ne sont pas privés du mariage. Hein.
Maintenant, il y a cet affrontement entre les deux sexes à l'Église. Ça ne peut pas exister. Donc, il vaut mieux qu'ils soient mariés. Sinon, si la personne est mariée et qu'il y a encore cette tentation, les choses se règlent à l'Église et il faut dire telle personne a ce problème, on le met derrière au fond de l'Église. C'est pour te dire que déjà, c'est en sanction. Là, cette sanction est appliquée à la personne. On ne le protège pas. Il faut que cette vérité se dise à l'Église.
Merci, Soumeila, pour votre contribution. Nous avons le commentaire de Hosanna qui dit « L'Église catholique a terni son image dans le monde. C'est vraiment scandaleux que les hommes qui représentent Dieu ont un tel comportement. Je pense qu'il est trop tard déjà et cette rencontre des prêtres avec le pape n'aura pas d'effet selon lui. Il faut que les prêtres se confessent sérieusement. » Il y a aussi Faya David qui dit « Je déteste la pratique de la pédophilie au sein de l'Église catholique, mais je pense qu'il faut que le pape et ses dirigeants freinent cette pratique. » Joseph Kabeya est en ligne. Joseph.
Oui.
Je vous entends de loin. Hein. Vous êtes très loin. Essayez de vous approcher de votre téléphone. Oui, voilà. Quel est votre commentaire?
Mon commentaire est ceci. Allô?
Allô, oui. Allô?
D'abord.
Je vous écoute. Je pense qu'il y a un problème de connexion.
Mon commentaire là, Eric.
Oui, je vous écoute.
Je ne peux pas savoir pourquoi, depuis la création du monde, il n'y a que le pape blanc. Pourquoi l'Église catholique ne réfléchit pas à élire aussi le pape blanc?
Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je vous dirai déjà que, par exemple, les jésuites ont un pape noir. Et les jésuites font aussi partie de la communauté catholique. Nous avons Ben Benoît en ligne. Ben.
Oui, bonsoir à la Radio du Monde. Oui.
Bonsoir Ben, je vous écoute.
Oui, d'abord je vais commencer par dire que ce qui dérange beaucoup la communauté catholique ou l'Église catholique, la première des choses, c'est la souveraineté pontifique qu'on a confiée à une personne. C'est-à-dire tout ce qu'il dit et c'est ce qu'il arrive à exécuter. Ça, c'est de un. Et de deux, juste moi, j'arrive à confirmer que des prêtres de religieuses sont mariés.
Ben, oui. Le pape, oui, a des conseillers, le pape a un gouvernement. Il décide après avoir consulté.
Oui, mais j'arrive à vous dire. Textuellement, moi, je suis aussi parmi ces gens-là. J'étais au petit séminaire. Je connais bien comment l'Église catholique fonctionne. Ce qui dérange beaucoup plus, pourquoi je parlais de la souveraineté pontifique, c'est-à-dire que ce n'est plus encore la religion qui est juste dirigée par Dieu ou par l'Esprit Saint, mais ça devient beaucoup plus politisé. C'est pour cette raison que vous remarquerez aujourd'hui, même des prêtres dont je suis en train de vous dire, sont mariés. Les religieux sont mariés. Si vous regardez bien ce qui se passe dans des couvents, dans des cures, vous trouverez que ces gens-là sont mariés. Mais ils sont en train de se masquer. C'est que nous demanderons qu'ils arrivent à se dévaler pour qu'on arrive réellement à confirmer. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas le pratique normalement.
Mais Ben,
Dieu doit admettre, oui.
Ben, on voit aussi le même phénomène chez des personnes mariées.
Oui, si c'est de même personnes mariées, parce que nous avions aussi des constitutions qui arrivent nécessairement à accepter que les gens soient peut-être polygames. Il n'y a pas de problème parce que cela est autorisé. Mais dans leur église, la déontologie de leur église ne permet pas à ces gens-là de se marier. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est plus encore la pratique de Dieu, mais ça devient d'autres choses. C'est un peu cela que nous arriverons à détester cela. Et comprenez mon émotion.
Merci Ben pour votre contribution. Nous avons Vincent Seonou qui est au Bénin. Vincent?
Oui, bonsoir Washington.
Bonsoir, vous êtes au Bénin, Cotonou, je ne sais pas. Vous êtes à Cotonou?
Oui, à Boumé-Calavi.
C'est ça, je vous écoute.
À Boumé-Calavi.
Je vous écoute.
Oui, eh ben, de façon ramassée, moi je vais dire que l'Église catholique n'est plus ce qu'on croyait avant parce que l'Église catholique a terni son image. Il me semble que c'est Hosanna qui a commenté cela. Aujourd'hui, les prêtres, les sœurs ne sont plus les prêtres, ne sont plus les sœurs. On ne compte pas même plus.
Mais là, vous êtes en train de généraliser. Ce n'est pas tout le monde.
Oui, j'ai pas dit. Ah, mais c'est pas tout le monde, mais ça augmente. Ça augmente. Parce que dans l'histoire aujourd'hui, quand on parle de l'Église, quand on parle du christianisme, c'est l'Église catholique qui est en tête, qui dirige les grandes conférences dans tous les pays. Et quand il y a un problème, c'est l'Église catholique qui intervient. Mais si cette Église-là qui intervient, qui règle les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels et bien d'autres, mais si cette Église-là entre son image, ça veut dire qu'elle n'est plus. Ça veut dire qu'elle n'est plus. C'est ce que je constate surtout dans les pays où les prêtres violent les fidèles chrétiennes et aussi les sœurs aussi qui ne doivent pas faire certaines choses, mais pourtant elles le font. Bon, ça, c'est ce que je condamne surtout. Je conteste surtout que l'Église catholique n'est plus en forme, n'est plus ce qu'on croyait.
Merci Vincent pour votre contribution. Marie-Jeanne, vous êtes encore là?
Oui, je suis en ligne, je vous écoute.
Vous plaidez donc pour le mariage des prêtres, des sœurs. Il y a un catholique pratiquant qui m'a dit confidentiellement que ça ne peut pas se faire parce que souvent les prêtres interviennent pour réconcilier par exemple les couples en conflit ou les divorcés, etc. Mais que si un prêtre doit se marier et que chez lui, ça ne va pas, il ne pourra pas faire jouer son rôle.
Je ne pense pas que ce soit une bonne intention, puisque c'est eux qui lisent la Bible, et la même Bible dit qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Si ils ne sont pas mariés, quels sont les conseils qu'ils donnent à ce couple-là? Puisqu'ils ne connaissent pas la vie de couple, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Et donc, je pense que pour l'équilibre de l'Église catholique et pour l'équilibre de ces êtres humains, il faudrait que le souverain pontife et ses proches collaborateurs officialisent le mariage des prêtres.
Marie-Jeanne.
Parce que les prêtres font du désordre, et vraiment un désordre qu'on ne peut pas expliquer.
Marie-Jeanne, mais il ne faut pas oublier que c'est un choix individuel. On ne force personne à y entrer.
Je veux dire qu'ils ont choisi, mais pour votre cas en Afrique, quand ils ont choisi d'aller au séminaire, ils avaient quel âge? C'est des enfants qui ont vu une certaine ville, que dans le village, c'est une star. Il est star dans le village et les enfants ont pensé qu'ils pouvaient aussi devenir comme lui. Alors ils sont engagés dans un chemin sans savoir quels sont les tenants et les aboutissants de ce chemin. C'est pour ça qu'ils se sont engagés. Ils ne se sont pas engagés étant adultes.
Mais il y en a qui quittent après.
C'est ça le problème.
Il y en a qui quittent après. Donc, on peut y entrer et on peut quitter.
Les autres ne quittent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà habitués à cette vie-là et qu'il leur est impossible d'aller recommencer ailleurs. C'est ça, ceux qui quittent, c'est un acte de bravoure pour vivre dans ce milieu et accepter de repartir, recommencer dans un autre milieu.
Très rapidement, la rencontre au Vatican, qu'est-ce que vous souhaitez? En 10 secondes.
Je souhaite que le mariage soit officialisé.
Merci Marie-Jeanne pour votre contribution. Merci à tous ceux qui nous ont appelés pour s'exprimer sur ce sujet. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Eric Manirakiza vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine.